Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix, avec un trio, on peut dire, top niveau. C'est Mbappé, Neymar, Messi, mais en version vraie voix. Puisqu'avec nous, nous avons le président.
Voilà.
Le roi de l'Institut de la Parole et auteur d'un excellent livre d'aphorismes, Libre Parole d'un Inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe
Bonsoir Bilger. Mon cher Philippe.
Lydia Guirous, essayiste, auteur d'un excellent livre également, Assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Bonsoir Sophie.
Bonsoir à tous.
Alors, des vraies voix, vraiment, avec un menu plus que copieux aujourd'hui, vu l'actualité. On va avoir en fil rouge ce qui s'est passé lors du premier tour du Congrès. Alors, ce n'était pas encore le Congrès, c'est le week-end prochain, mais du vote de départage des candidats des Républicains. Je rappelle que la finale opposera Éric Ciotti, qui est arrivé en tête avec 25,59% devant Valérie Pécresse, qui a réuni 25% des suffrages. À 17h50, on sera avec Alexandra Borchio-Fontin, soutien de Éric Ciotti, et ensuite avec une des vraies voix à 18h15, Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France, Sophie Borchio-Fontin est sénatrice des Alpes-Maritimes, qui lui soutient Valérie Pécresse. Mais les vraies voix continuent également, elles sont un peu spéciales, mais avec leur rythme normal, à 17h30, notre premier débat, tous suspendus, c'est un hashtag qui cartonne. L'éducation nationale est-elle fracturée ? Oui, fracturée entre les enseignants qui sont au contact des élèves et ceux, les ronds de cuir, qui sont au rectorat, qui sont au ministère rue de Grenelle. On va se poser cette question. À 18h30, notre grand débat. Le Premier ministre et le ministre de la Santé sont à Angoulême aujourd'hui, en région Nouvelle-Aquitaine, pour présenter, pour la première fois en région, le Ségur de la Santé. On va se poser la question, Ségur de la Santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent ? Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ça va les vraies voix ?
Très bien.
Je vous sens, je me dis Messi, Neymar, Mbappé, ça vous résume
alors
bien.
Alors qui est qui ?
Oh ben là, je vous laisse choisir, je ne veux pas. Philippe Bilger voulait être qui ?
Moi, je ne veux pas être Neymar.
Ça, on avait compris, on le savait. Bon, vous voulez être qui, Mbappé ou
pourquoi
Messi ?
Pourquoi pas Mbappé ? C'est bien, il court vite.
Bon, vous voulez qui, Neymar ?
Je voulais être Mbappé, mais je vais être Messi, si vous
bon,
voulez
bien. Bon, vous serez Neymar.
Du coup, je suis Neymar.
Bon, d'accord. Bah, écoutez, on peut avoir une certitude, c'est que vous connaissez bien le pas de danse sur les dance floors, vu suffit de regarder le compte Instagram de Neymar pour s'en rendre compte qu'il peut être un très bon footballeur, mais qu'il peut être également un acolyte de John Travolta.
Mais Sophie fera moins de chiquet que Neymar.
Ah, c'est sûr qu'elle, si on la fait tomber, elle ne se tordra pas de douleur pendant 10 minutes sur le dance floor.
Non, c'est sûr.
Bon, les vraies voix, tiens, pour mon coup de gueule du jour, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. C'est les deux à la fois, ça ne vous gêne pas ?
Vous devenez un homme de synthèse.
Ah ben, c'est depuis que je vous connais. On va écouter, tiens, on va le commencer en chanson.
Et j'entends siffler le train.
Ah, ça rappelle des souvenirs, hein. Richard Anthony. Et j'entends siffler le train, oui.
Fabuleux.
Parce que, alors, c'est un coup de cœur et un coup de gueule à la fois, c'est un coup de cœur pour la région Hauts-de-France, dont on peut dire que le vice-président alors le président c'est Xavier Bertrand, la journée est pas très bonne pour lui, a décidé de ne pas payer à la SNCF les 44 millions d'euros qu'elle devait au titre du mois de décembre. Pourquoi ? Pour protester contre les manquements de la SNCF en termes d'horaire, etc. Et je tiens à dire bravo parce que la semaine dernière, vous savez, on était à Bergerac, mon cher Philippe Bilger. Notre ami Patrick Roger est arrivé très en retard parce que son TGV avait du retard, vous êtes d'accord ? Et alors nous, le lendemain, pour rentrer avec Alexandre Priam et Rémi Dos Santos, c'est fabuleux, on se met à la balise H du quai où était théoriquement notre wagon. Seul problème, le train était représenté à l'envers sur... C'est à pleurer de rire tellement c'est grotesque. Sur, vous savez, les panneaux qui donnent les emplacements des wagons. Donc, chassé, croisé, complet, les gens qui étaient à l'avant devaient aller à l'arrière et vice-versa. Et avec ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, le temps que tout le monde arrive au bon wagon, parce que surtout quand vous êtes d'un bout à l'autre, c'est quand même gênant, 5 minutes de retard. Alors, je dis que tant que la SNCF fera preuve d'aussi peu de professionnalisme pour inverser le sens des wagons, l'ordre des wagons, désolé, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, Mine ou Centrale, et je dis bravo à la région Hauts-de-France qui ne signe pas un chèque de 44 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez, les vraies voix ?
Alors, je vous trouve très dur, Philippe, même si ce que vous dites est factuellement totalement exact et d'une certaine manière scandaleux. Mais moi, j'ai eu des expériences durant de longs mois contraires. C'est-à-dire que, miraculeusement peut-être, les trains sont arrivés parfaitement à l'heure.
Oui, mais quand ils savent qu'il y a Philippe Bilger qui prend un train, je peux dire que là, ils mettent le paquet.
La gentillesse des agents dans les trains, les informations qu'ils donnent, il y a, me semble-t-il, un grand progrès. Mais alors, je ne dénie pas ce que vous avez subi avec Patrick Roger, avec ce train.
Ah ben, on a subi chacun notre tour. Lui, c'était samedi, nous, c'était dimanche. Lydia Guirouz.
Moi, je suis une habituée des trains des Hauts-de-France. Je suis originaire de cette région et je m'y rends très régulièrement.
Vous pouvez nous le faire avec l'accent ch'timi, version bienvenue chez les ch'tis.
Je vais pas le tenter. Je vais pas le tenter. Je serais ridicule.
C'est chiant.
Et donc voilà, je perds le fil. Philippe, vous me déconcentrez. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard. Il y a parfois des trains qui sont annoncés, qui ne viennent pas. Moi, j'ai de très mauvais souvenirs. Évidemment, les agents sont d'une gentillesse extraordinaire.
Alors ça, accueil super dans le TGV, je l'avoue.
Vraiment, mais même les TER, c'est plutôt les petites lignes entre les TER qui sont très compliquées, des correspondances que vous devez prendre qui finalement n'existent pas. Et c'est un enfer pour les gens. Ça a d'ailleurs été l'un des échanges qu'a eu Xavier Bertrand avec le président de la République quand Emmanuel Macron s'est rendu pendant quelques jours dans les Hauts-de-France. Donc je comprends cette décision. Si la SNCF est bénéficiaire sur ces lignes, je ne vois pas vraiment les raisons de subventionner avec plusieurs millions de la région.
C'est à Sophie Audugé de prendre le train en marche.
Oh, ok, c'est joli. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux depuis quelques années. Moi, j'ai pris beaucoup le train de Paris-Bordeaux à une époque où j'habitais à Bordeaux et où j'étais régulièrement sur Paris, à la période où il y avait énormément de retard, c'est-à-dire qu'on comptait plutôt les trains qui arrivaient à l'heure que ceux qui arrivaient en retard, que c'était des retards d'une heure, deux heures, voire trois heures, ce qui est impossible d'organiser un
et si vous avez un avion à prendre à Paris
ou un autre
train dans une autre gare, donc là, c'est
impossible. Après, c'est vrai que considérons que c'est quand même une entreprise publique. Moi, j'ai quand même énormément de mal à accepter que les grèves se fassent systématiquement au moment des départs en vacances, ce qui met quand même les familles, les enfants dans des situations absolument...
Prise d'otage.
Otage. Et que c'est quand même un problème récurrent en France, dont on va parler tout à l'heure également avec l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder ces sujets-là sans aborder les questions des syndicats, sans aborder la question de la fracture même dans l'entreprise publique, entre certains qui font de leur métier un acte de révolution et ceux qui essayent en toute bonne conscience de faire leur travail et de le faire bien. On a le même problème à l'hôpital. Et on a le même problème à l'hôpital. Donc effectivement, la plupart des agents qui sont sur place sont très aimables, très, très aidants, très facilitants. Mais par contre, après, effectivement, il y a quand même une fracture à l'intérieur de ces entreprises-là.
Les vraies voix, 17h12 à 17h30, notre premier débat, tous suspendus, c'est un hashtag qui fait le buzz aujourd'hui. L'éducation nationale est-elle fracturée ? Et vous êtes 96,1% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix pour les tours de table de l'actualité.
Et te joue de moi comme de toutes choses et dispose de ma vie.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirouz, c'est Sophie Audugé et c'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
Vous voulez une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end ?
Mais non !
Qu'est-ce qui est petit et marron ?
Je sais même plus.
Un marron.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Philippe Bilger voulait parler d'un sondage qui dit qu'un Français sur deux partage les constats d'Éric Zemmour.
Oui, je vais encore parler d'Éric Zemmour, mais peut-être par un autre biais. On a surabondamment analysé la vidéo de candidature d'Éric Zemmour. Ce qui m'amuse, si j'ose dire, même quand on n'est pas un soutien d'Éric Zemmour, c'est de voir avec quel... le concert absolument frénétique de tous ceux qui déposent plainte contre lui parce que il l'estime à terre. En réalité, il y a quelque chose qui me gêne dans cette espèce de lynchage promotionnel. Tout le monde, sans exception, se rue contre lui parce que, n'est-ce pas, on a vu une image, ainsi de suite. Mais Et donc, je voulais en déduire que si la vidéo était si catastrophique et s'il avait commis tant de détournements d'images, eh bien, je serais étonné que 50% des Français lui apportent non pas,
bien dans le micro,
non pas un soutien, mais semblent d'accord avec les principaux thèmes développés dans la vidéo. On peut penser ce qu'on veut de lui et des thèmes. Je constate tout de même que, sur le fond, cette vidéo n'a pas indigné au moins 50% de ceux qui l'ont écoutée. Et donc, j'aimerais qu'on traite Éric Zemmour comme il le mérite si on s'oppose à lui, mais sans mépris ni condescendance. On pourra faire ce qu'on veut de lui sur le plan politique après, mais on n'a aucune raison de le traiter de manière indigne.
Lydia Guirous.
Oui, il n'y a aucune raison, effectivement, de le traiter de manière indigne. Et je trouve que c'est toujours une erreur en politique lorsqu'on traite ses adversaires politiques avec mépris, avec condescendance et qu'on essaye de
C'est qu'on n'a pas d'arguments. Ouais.
C'est qu'on n'a pas beaucoup d'arguments. Et puis surtout, on donne l'argument à l'adversaire de la victimisation qui peut parfois fonctionner. Oui, il y a beaucoup de Français qui partagent effectivement une partie des constats d'Éric Zemmour. Que Éric Zemmour fait depuis longtemps, mais d'autres les ont fait et également. Hier, je faisais un débat et on me dit oui, mais c'est le seul à parler de l'islamisme, du communautarisme, du danger pour la civilisation. Je regrette, c'est pas vrai. Au sein des Républicains, on en a parlé, d'autres intellectuels en ont parlé longuement, donc il n'est pas le seul à faire ces constats-là. Et je comprends qu'aujourd'hui, une partie des Français se reconnaissent dans le discours d'Éric Zemmour, mais il faut, et quand on regarde les études qualitatives, c'est pas très bon pour Éric Zemmour.
Non, c'est
il
sûr,
ne
dans les sondages,
pas.
Marine Le Pen est beaucoup plus rassurante que lui.
Et c'est là le point de faiblesse d'Éric Zemmour, et c'est pour ça qu'il faudra qu'il travaille cela, peut-être en réhumanisant davantage, parce que là on a l'impression d'une mécanique très rodée qui fonctionne à coup de buzz médiatique, d'effets médiatiques. Il y a quelque chose qui ne rassure pas chez Éric Zemmour, et ça va être l'élément faible de sa campagne. Voilà.
Sophie Audugé.
Oui, ben moi je partage tout ce qui a été dit. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 50% des Français qui finalement sont plutôt d'accord avec les sujets qu'il aborde. Donc ça prouve quand même une chose, c'est que ce qu'il dit avec sincérité est reçu comme...
Ça me rappelle une phrase de Fabius au début des années 80 qui parlait du Front National à l'époque. Il pose de bonnes questions, mais apporte de mauvaises réponses.
Oui, c'est un peu le procès.
C'est un peu ça, finalement.
C'est un peu le procès.
C'est Fabius qui avait dit ça.
Oui, c'est surtout qu'on n'entend pas les réponses.
Oui.
Ouais, disons qu'on ne lui donne pas non plus la possibilité vraiment de pouvoir exposer effectivement le projet. Mais je crois que ce qui est intéressant malgré tout, et peut-être que ça rentre aussi dans l'élément, enfin les éléments de succès d'Éric Ciotti, c'est que ce sont des gens quand
d'Éric Zemmour. De Ciotti, pardon.
Oui,
toujours d'Éric.
Oui, c'est d'Éric, pardon. Mais oui, je pense qu'ils ont. Et je pense que les Français apprécient ça aujourd'hui, c'est-à-dire une sincérité dans les modes d'expression, qu'ils parlent en évoquant des choses qui correspondent au vécu des gens, et que finalement, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Lydia, on est moins dans la solution que dans le constat, mais il n'empêche qu'ils parlent vrai, et je crois que par rapport aux autres, ça les distingue vraiment des autres candidats, où on a un peu l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous, quoi.
C'est votre tour de table de l'actualité, ma chère Sophie, mais on va le commencer avec un son d'un film culte.
Je vais faire deux petites piqûres pour vous donner de l'appétit.
Ah non, pas de piqûres, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis.
Et c'est lui qui les a ordonnées.
Menteuse. Oh, pas de piqûres, je ne supporte pas les piqûres. Docteur.
Vous avez reconnu le film. L'aile ou la cuisse, absolument, avec deux funesses, à qui l'infirmière envoie une grosse seringue dans le postérieur. Et vous voulez parler de la vaccination des 5-12 ans.
Oui, alors des 5-11 ans exactement.
Ça, oui, parce 5-11 ans, c'est 12 voilà. Exclus, voilà. 11 révolus, 12 exclus.
C'est ça,
voilà.
C'est ça. Bon, on est d'accord. Effectivement, nous, chez SOS Éducation, on a contacté une épidémiologiste pour qu'elle nous donne son avis, parce que c'est important d'avoir un avis objectif sur ces questions-là. Et effectivement, on a un peu l'impression que tout le monde en parle, sauf que c'est quand même un sujet quand même très technique. Donc, l'approche qui est aujourd'hui celle de la Haute Autorité de Santé, qui a annoncé ça, je crois, mardi, dans l'après-midi, c'est qu'effectivement, viennent de valider la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, donc dans des cas très spécifiques d'enfants qui présentent des comorbidités, donc qui ont une sensibilité particulière
diabétiques, par exemple, parce qu'on peut avoir du diabète très jeune, parfois.
Oui, absolument. Après, il y a d'autres pathologies qui sont spécifiées, hein, tout un ensemble de pathologies immunodépressives, et puis également pour les enfants qui sont en contact de personnes dans leur entourage immunodépressives. Ce que nous expliquait cet épidémiologiste, c'est qu'il y a quand même un problème par rapport à cette situation-là. Bon, actuellement, si vous voulez, la vaccination n'est pas obligatoire pour les enfants, mais c'est vrai qu'on a quand même un peu le sentiment qu'on tente de nous amener vers cette option-là, qui semble pas avoir l'adhésion, en fait, hein, des épidémiologistes, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, les enfants sont très très peu concernés pour l'instant. Alors là, effectivement, je vais reprendre ces termes, hein, humilité absolue, la chose évolue en permanence, faut être très vigilant, ce qui est vrai un jour n'est pas peut-être vrai le lendemain, mais en l'occurrence aujourd'hui, c'est pas quelque chose, enfin, en tout cas, ils sont pas en danger, mais surtout, ça ne règle pas l'enjeu premier de son point de vue à elle, c'est de vacciner massivement dans les autres continents, puisque c'est dans les autres continents, évidemment, que le vaccin manque. Donc, que les pays riches se mettent à vacciner tout le monde, notamment les enfants, alors qu'il n'y a pas besoin. Il y a une vraie question qui se pose là, international. C'est ce qu'il ne va pas mieux vendre des doses moins dans élevées à des pays qu'on a besoin.
Ou lever les brevets pour pouvoir permettre de diffuser ce vaccin plus largement.
Vous êtes
largement.
D'accord avec Sophie Audugé ?
Oui, je suis d'accord avec Sophie Audugé. Je trouve, sur les deux points, la vaccination des enfants, et il y a plusieurs spécialistes qui nous disent qu'en fait, quand un enfant est en bonne santé, cette fameuse balance bénéfice-risque, en fait, est très faible, enfin, très plus que faible, ça n'apporte pas grand-chose aux enfants entre 5 et 11 ans, donc à partir de là, moi, je ne vois pas la pertinence de les vacciner. Alors, on m'oppose l'argument qui dit que c'est la transmissibilité aux populations plus adultes. Très bien, dans ce cas-là, moi, je suis favorable, afin de préserver les enfants, qu'on vaccine la population adulte, et quitte à aller vers une vaccination obligatoire, ça me semble ne plus être un tabou aujourd'hui. Mais je ne suis pas favorable à cette vaccination pour les enfants, et d'ailleurs, je trouve que les enfants et les plus jeunes ont payé un lourd tribut à cette crise de la Covid. L'école en étant masquée, une société de gestes barrières, ils ont été longtemps isolés. Je trouve qu'il faut les préserver au maximum. Et sur le deuxième point, c'est vrai qu'il y a une inégalité très forte entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il y a la question des brevets pour pouvoir le diffuser plus longtemps. Et si on ne vaccine pas ces pays du Sud, les pays pauvres, là, il y a un terreau qui est très fertile pour les nouveaux variants qui seront importés. Et c'est l'histoire sans fin.
Philippe Bigère boit vos paroles, mesdames, absolument. Donc je pense qu'il acquiesce.
Avec Lydia et Sophie, j'ai la grande chance d'avoir deux spécialistes de ce thème, au sujet duquel je n'ai même pas besoin d'annoncer les bêtises que je comptais proférer, puisque je les approuve totalement.
Que vous ne dites jamais de bêtises.
Si, si. Là, j'avoue que le thème,
ne vous dévalorisez pas.
J'ai une analyse sanitaire très étonnée. Très remarquable.
Les vraies voix, 17h20, presque 27. Dans quelques instants, notre premier débat, tous suspendus. L'éducation nationale est-elle fracturée? Vous êtes 95,8% à dire oui. On va en débattre avec Romain Vignès, le président de l'Association des professeurs de lettres.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Le sentiment que j'ai eu, c'est que la gestion de cet hommage à Samuel Paty par l'éducation nationale, c'était, on fait une minute de silence, on rebaptise des salles au nom du professeur assassiné, et puis terminé, quoi, voilà. Je pense que l'éducation nationale sortirait grandie de reconnaître que dans son soutien à Samuel Paty, elle n'a pas été totalement parfaite.
Les vraies voix Sud Radio.
Tous suspendus, c'est le hashtag qui prend de l'ampleur ces derniers jours au sein des personnels de l'éducation nationale. Un hashtag en soutien à Jean-Christophe Peton que vous avez entendu ce matin dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Minibus. Jean-Christophe Peton, un enseignant suspendu pour avoir publié le 14 octobre sur Pronote et Twitter un texte dans lequel il interrogeait sur le rôle joué par l'éducation nationale dans l'assassinat de Samuel Paty. Un texte qui disait ceci, je cite. « Avant d'être égorgé, Samuel Paty a été abandonné par sa hiérarchie, l'éducation nationale et ses sbires, et même tensé pour avoir montré des caricatures qui pouvaient heurter X ou Y ou Z. Aujourd'hui, la même hiérarchie nous intime une minute de silence pour lui rendre hommage. Cette minute de silence, il faut la faire pour lui évidemment, mais ne soyons pas dupes de l'hypocrisie de l'institution et de ses relais. Fin de citation. Le 22 octobre, Jean-Christophe Petaut a été convoqué par le rectorat de Besançon et suspendu pour 4 mois à titre conservatoire. De plus, une procédure disciplinaire est ouverte et tout cela sous prétexte qu'un fonctionnaire ne peut critiquer son institution ni sa hiérarchie. D'où notre premier débat, tous suspendus, l'éducation nationale est-elle fracturée? Et vous êtes 96,1% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Romain Vigneste, président de l'Association des professeurs de lettres. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est notre débat. Y a-t-il une fracture entre les ronds de cuir des bureaux, rue de Grenelle ou dans les rectorats, et les enseignants comme vous, ou comme Jean-Christophe Petaut, ou comme Samuel Paty, qui sont eux en direct au contact des élèves ?
Il y a certainement une rupture, mais peut-être pas de... Enfin, cette rupture, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit parce que les ronds de cuir, comme vous dites, ne seraient pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que la rupture, elle est dans la conception même de notre métier et de la mission de l'enseignant. C'est là qu'il y a une rupture. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous et la plupart des collègues, notre mission, elle est d'éveiller, de transmettre le savoir nécessaire à l'élève pour qu'il pense par lui-même et pour qu'il le forme à la recherche de la vérité. Et c'est ce qu'a fait Samuel Paty, c'est ce qu'ont fait les collègues en général. Et je reprends votre appellation de rond de cuir, ou disons pour une partie de la hiérarchie, ça n'est pas spécialement notre mission. Je crois que la rupture, elle est fondamentalement dans le rapport au savoir.
Philippe Bilger.
Monsieur le Président, heureusement que je n'ai pas connu la même hiérarchie quand j'étais magistrat. Parce que je ne sais pas si j'aurais fait mes 40 ans de magistrature. Mais ceci étant dit, à la fois, évidemment, je désapprouve totalement la procédure disciplinaire qui va être engagé contre ce professeur qui a une parole libre et clairvoyante. Mais est-ce que vous ne trouvez pas à la longue qu'il faudrait plutôt que de se tourner vers cet atroce assassinat, vers le futur, l'éducation nationale a des maux considérables à régler, et notamment, me semble-t-il, contre ces hiérarchies qui sont éloignées du terrain et de l'enseignement, à réparer des dysfonctionnements éclatants pour les parents et les professeurs.
Romain Vigneste.
Bien sûr, mais je pense que cette affaire est tout à fait symptomatique des maux dont souffre l'éducation nationale. Et je dirais, plutôt que de dire que l'éducation nationale s'éloigne de ses enseignants, qu'elle s'éloigne de l'enseignement lui-même. C'est-à-dire que si on prend l'exemple en question, celui de la liberté d'expression, celui de donc cet enjeu qui est de défendre la liberté d'expression, ou si vous voulez aussi défendre la tolérance, être contre le racisme, toutes ces sortes de choses. Vous avez deux manières de voir les choses. Soit vous faites du catéchisme et vous dites aux élèves, c'est pas bien, c'est bien, ceci c'est bien, ceci c'est pas bien, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Mais ça ne marche pas. Nous, l'objectif, la finalité de l'enseignement, c'est d'amener les élèves à penser par eux-mêmes et d'aboutir en raison aux conclusions qui font que nous condamnons le racisme, nous condamnons le sexisme, ou nous défendons la tolérance. C'est-à-dire qu'il y a un gros paradoxe, c'est qu'on défend la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est avant tout la condition sine qua non de la recherche de la vérité. Le contraire de la liberté d'expression, c'est le dogmatisme. Alors on va défendre la liberté d'expression, non pas en pratiquant la raison, en pratiquant le raisonnement qui doit être, disons, la colonne vertébrale de la liberté d'expression, mais en disant simplement la liberté d'expression, c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Si je puis me permettre une anecdote qui se rapproche de notre problème, je connais une collègue de lycée professionnel qui, une fois à la retraite, a été contactée par un ancien de ses élèves qui avait dû la trouver, je crois, sur Facebook ou peu importe. Et cet élève la contacte et lui raconte que lorsqu'il l'avait pour professeur, elle ne le savait pas, mais il était dans un groupe d'ultra-droite qui allait casser du noir, littéralement. Et elle, il lui explique, si j'ai arrêté, c'est grâce à vous, parce qu'en étudiant Voltaire, en étudiant Candide, je me suis rendu compte que j'étais dans le faux. Et c'est comme ça, c'est au contact des textes, c'est par le raisonnement, c'est par le savoir qu'on
fait évoluer et qu'on fait émanciper. Exactement. Et qu'on émancipe. On va donner la parole à nos autres vraies voix, parce qu'elles doivent échanger avec vous. Tiens, vous connaissez bien l'éducation, Sophie Audugé.
Oui, alors effectivement, il y a un énorme problème à l'éducation nationale. Je crois que c'est pas, malheureusement, c'est pas nouveau. Non, effectivement, on a de plus en plus de situations de professeurs qui se retrouvent en opposition avec l'institution parce que l'institution est complètement déconnectée du réel. Les violences que subissent les professeurs sont multiples. Hein,
c'est des violences... encore eu un prof de gym qui s'est fait taper dessus à Beauvais.
Mais bien, oui. Et puis dans un très bon lycée parisien également. Hein. Donc c'est des violences d'élèves sur les professeurs, c'est des violences de parents sur les professeurs, c'est des violences de professeurs entre eux parce qu'ils ne partagent pas la même façon de voir le métier, notamment sur la liberté d'enseignement où il y aurait quand même beaucoup à dire. C'est également l'institution envers les professeurs. Comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, SOS Éducation a un observatoire de la souffrance des professeurs où on a des dizaines, des centaines de témoignages qui sont plus effarants les uns que les autres. C'est des professeurs sur lesquels on revient sur leurs notes, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit de mettre la note qu'ils veulent aujourd'hui. C'est un programme de l'éducation nationale qui devient ajusté en fonction des modes, de la pensée magique, de la bien-pensance qui fait qu'on rajoute des obligations aux enseignants et on passe à côté. Alors moi, je suis ravie que monsieur évoque Voltaire. C'est quand même très bien parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein d'élèves qui ne traitent pas les classiques et c'est un problème.
On va faire réagir Romain Vignès et on donne tout de suite la parole à Lydia Guirous. Romain Vignès, c'est vrai que quand on voit les notes ou les profs, par exemple, pour le bac, on leur dit bah, faut mettre tant pour que tant d'élèves aient le bac, ça devient surréaliste. Ça, c'est des ordres qui viennent des ronds de cuir, vous me passerez l'expression, et que subissent les profs de terrain.
Absolument. Quand je suis pas entièrement d'accord avec les déconnexions parce que je pense qu'ils savent très bien comment les choses se passent sur le terrain. C'est pas par ignorance, mais c'est, sinon je suis entièrement d'accord évidemment avec ce diagnostic. Oui, mais ça correspond très bien aussi au ravalement du professeur qui est passé d'un maître qui est donc on considère qu'il est une autorité, qu'il est l'auteur de son cours parce qu'il est le possesseur, le dépositaire d'un savoir, qu'il est d'ailleurs
absolument.
D'ailleurs, son devoir est de l'entretenir, ce savoir. Et beaucoup de professeurs continuent à faire des recherches, se tiennent au courant. C'est ça qui est important. Et ça, c'est la conception, c'est ma conception de notre métier. Et évidemment, ça passe aussi par la souveraineté dans la notation, la souveraineté des jurys, etc., etc. Et puis, il y a une autre conception qui n'est pas celle du professeur d'ailleurs, mais de l'enseignant. Moi, je suis très sensible à cette substitution des participes présents au nom de métier, comme soignant d'ailleurs ou d'autres choses. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'un exécutant et vous êtes là pour enseigner de la manière dont vous dites d'enseigner et d'enseigner les contenus qu'on vous dit d'enseigner. Moi, le programme m'oblige à traiter, par exemple, de tel, je ne sais pas, un programme d'histoire, vous devez traiter de l'Empire. Mais vous ne vous dites pas ce que vous devez dire de l'Empire. Ça, c'est votre responsabilité de savant, disons-le. C'est là, vous voyez, qu'il y a un rabaissement de la mission du professeur et de son statut qui est censé... Oui, excusez-moi.
Parce qu'on n'a pas trop de temps, on va donner la parole à Lydia Guirous de suite.
Non mais je partage ce que vient de dire Romain. Effectivement, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est la place de l'enseignant dans la société. Avant, le professeur, l'enseignant, l'instituteur, c'était une institution en quelque sorte et ils étaient respectés. Et il y a une forme de déclassement en fait. Et ce déclassement du professeur, c'est aussi a ouvert la voie à des débats sur la façon d'enseigner, a ouvert la voie à un manque de respect aussi du professeur. Et ceci peut peut-être expliquer les comportements que peuvent avoir évidemment l'institution en infantilisant les professeurs, mais aussi des élèves qui sont de plus en plus violents, qui ne respectent plus l'autorité du professeur, mais également des parents. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les professeurs qui ne sont pas soutenus, les rares fois où il y a une punition... Par les parents, au contraire, ils vont venir contester une note qu'ils estiment ne pas être juste alors qu'ils n'en savent rien.
Et parfois frapper l'enseignant.
Ça peut aller jusqu'à cette extrémité. Et je trouve que ça vient en fait du phénomène de déclassement de ce corps qui était respecté, qui était quelque part un pilier de notre République.
Romain Vignès, en 1 minute 30.
Je suis entièrement d'accord sur ce déclassement. ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il va de pair avec un déclassement, si on reprend le mot, du savoir lui-même.
Exactement, c'est-à-dire aussi.
Dans la mesure où le savoir n'est plus au cœur de notre mission et de l'exercice de notre métier, enfin, il ne l'est plus pour l'administration centrale ou pour souvent une bonne partie des corps d'inspection, etc. Où on est censé, comme vous l'avez très bien dit à l'instant, non plus transmettre les connaissances et apprendre à penser, mais dire la bonne parole sur le développement durable, dire la bonne parole sur le vivre ensemble, dire la bonne parole, et c'est bien dire la bonne parole et non pas construire une démonstration ou donner le savoir qui va amener à une réflexion et à une conclusion. Eh bien, il est assez logique que le patient, si je veux dire, ou que l'élève et leur famille soient moins respectueux qu'ils le seraient du savoir, de l'autorité du savoir et de ce qu'il a de libérateur, qu'ils soient moins respectueux de ce qui relève finalement d'un catéchisme. Quand bien même, je ne me prononce pas évidemment sur le bien fondé du développement durable, des exemples que j'ai donnés, mais de la manière dont on traite les choses. Ça n'est plus un cours, un enseignement, une démonstration fondée sur des connaissances, c'est une bonne parole qu'on est chargé de véhiculer. Et dans un sens, entendez très bien court. Ce que je dis, hein, dans un sens, il est assez compréhensible qu'on respecte moins la propagande que le savoir.
Merci. Merci beaucoup, Romain Vignest, président de l'Association des professeurs de lettres. Verdict sur Twitter, tous suspendus, l'éducation nationale est-elle fracturée? Vous êtes 96,4% à dire oui. Tout de suite, on va parler de la primaire, on va appeler ça comme ça, des Républicains. Et on va en parler avec Théo Renaudon, qui était en compagnie de l'équipe d'Éric Ciotti, et d'Alexandra Borchio-Fontin, qui est sénatrice LR des Alpes-Maritimes et soutien d'Éric Ciotti.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Sophie Audugé et chronique présidentielle spéciale aujourd'hui par la force des choses. Et on écoute tout de suite Christian Jacob qui annonçait les résultats du premier tour avant le congrès des LR.
Xavier Bertrand a recueilli 25 213 voix. 22,36%. Michel Barnier a recueilli 26 970 voix, 23,93%. Valérie Pécresse a recueilli 28 179 voix, 25%. Éric Ciotti a recueilli 28 844 voix, 25,59%. Donc, seront à départager au deuxième tour, qui va s'ouvrir dès demain matin à 8h, Éric Ciotti et Valérie Pécresse.
Et nous avons Théo Renaudon qui est avec nous, qui était en compagnie de l'équipe du gagnant du premier tour, Éric Ciotti, qui est arrivé en tête.
Oui, bonjour Philippe. Éric Ciotti, oui, s'est installé dans un café à 300 mètres du siège des Républicains, rue de Vaugirard à Paris, pour accueillir ses résultats. Un café dont quasiment toutes les tables ont été retirées pour laisser place au pupitre du candidat. Dès le moment où les résultats ont été annoncés au siège du parti, une foule de journalistes est sortie. Tous se sont dirigés vers ce café. Là, ils ont découvert de nombreux sourires sur les visages des soutiens d'Éric Ciotti. Des sourires notamment parce que c'est une surprise pour beaucoup. Le sénateur Alain Joyandet a par exemple confié qu'il espérait bien voir son candidat au second tour, mais pas jusque-là, pas à la première place. C'est quasiment une victoire à ce niveau-là, s'est réjoui le sénateur. Un fort moment politique qui s'est matérialisé lorsqu'Éric Ciotti est arrivé devant les journalistes sous les applaudissements de ses soutiens avant le discours du candidat dans une salle trop petite pour accueillir confortablement tous ceux venus l'écouter. Un discours que le candidat, seul contre tous, a terminé sur ces mots: votez pour vos idées, votez pour une immense espérance.
Merci beaucoup Théo Renaudot. Bonsoir Alexandra Borchio-Fontin.
Bonsoir à tous.
Vous êtes sénatrice des Alpes-Maritimes, sénatrice LR bien sûr, et soutien d'Éric Ciotti. Tous les autres concurrents ont appelé à voter pour Valérie Pécresse. Il est vraiment seul contre tous, Éric Ciotti ?
Les autres candidats ont en effet appelé à voter pour Valérie Pécresse. Cela ne signifie pas que les adhérents vont suivre. On connaît bien l'histoire du report des voix. Déjà sur une municipale où on suit souvent son candidat, le report ne se fait pas automatiquement. Donc ce genre d'élection. Vous savez, quand on a démarré cette campagne, on était aussi un peu seul contre tous, avec parfois beaucoup de méfiance, que ce soit de la part des Français ou même des élus, sur la crédibilité de la candidature d'Éric Ciotti. Aujourd'hui, on a eu l'agréable surprise d'avoir une sorte de reconnaissance du travail accompli, du parcours, c'est-à-dire qu'on était les outsiders. On a plusieurs fois demandé à Éric Ciotti pourquoi il s'est présenté. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un peu retour à la case départ. Une fois de plus, on est un peu seul contre tous, mais l'élan du premier tour et ses bons résultats, voilà, pour moi, rien n'est joué. On va continuer sur notre ligne politique, à défendre nos idées, à montrer qui on est. Et voilà, rien n'est joué. On espère évidemment que pour le deuxième tour, la dynamique puisse s'amplifier.
Alexandre Préhem, et vous allez changer avec les vraies voix.
Oui, il y a eu deux moments forts dans cet après-midi du côté des Républicains, suite à l'annonce de Christian Jacob à propos des résultats. Il a tenu à souligner justement ce taux de participation qu'il juge exceptionnel, excellent. Ce sont ses mots, écoutez-le.
Nous avions 148 862 militants à jour de cotisation. 139 742 étaient en situation de voter, 113 038 ont voté, ce qui nous fait un taux de participation de 80,89%. Donc excellent taux de participation.
Oui, un très bon taux de participation, plus de 80%.
Quasiment 2007.
Vous êtes d'accord avec ça? C'est un bon taux de participation, Alexandra Borchio-Fontimp?
C'est une excellente nouvelle pour la droite, pour le Parti des Républicains. Il faut clairement ne pas oublier et saluer tout le travail qu'a fait notre président Christian Jacob. D'abord de cet esprit de rassemblement qu'il a animé du premier jour de la campagne, c'est-à-dire que la campagne s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je vous parle sans langue de bois, il n'y a pas eu de coup bas. Même entre les équipes, on a tous eu des échanges assez importants et surtout en toute amitié. Et c'est ce qui a fait aussi la réussite de ce scrutin, c'est que les gens ne supportent plus les candidats d'une même famille se déchirer. On l'a vu, on a porté les stigmates de la primaire de 2016. Donc aujourd'hui, Christian Jacob a réussi ça et la réussite de ce vote, 80%, plus de 80% sur un vote électronique, avec des adhérents qui n'ont pas forcément un ordinateur à la maison pour voter. Enfin, tout ça témoigne de l'engouement de la campagne, et l'engouement de la campagne, elle s'est faite aussi parce que chaque candidat s'est respecté et que la campagne était vraiment de haut niveau.
Vous allez échanger avec les vraies voix, Philippe Bilger.
Madame la sénatrice, pardon pour cette question un petit peu brutale. J'aime beaucoup Éric Ciotti. Je trouve qu'il a fait une excellente campagne, mais j'ai envie de ne pas voir réélu Emmanuel Macron. Dans ces conditions, est-ce que vous comprenez que je pense que Valérie Pécresse est mieux placée pour le battre que Éric Ciotti ?
Eh bien, moi, je pense tout l'inverse, c'est-à-dire que je pense que le candidat qui a le projet le plus en rupture avec le macronisme et qui n'a cessé de le dire et de défendre depuis des années, c'est Éric Ciotti. Comme en 2007 avec Nicolas Sarkozy, je pense que c'est le seul candidat qui arrivera aussi à absorber les voix de la droite. Sur tous les sondages, on voit quand même que la droite et l'extrême droite comptent. Voilà, je pense qu'Éric Ciotti sera le candidat qui est le plus à même d'affronter, de combattre Emmanuel Macron avec un programme en rupture. C'est celui qui a témoigné son opposition au pouvoir en place depuis des années et qui en plus pourra rassembler peut-être des électeurs qui sont partis des Républicains et qui seraient tentés par des candidatures, que ce soit chez M. Zemmour ou chez Mme Le Pen, de revenir, parce que lui incarne justement ce projet.
Lydia Guirous.
Alors cette primaire, c'est une belle performance pour le parti. C'est vrai qu'Éric Ciotti, on ne l'attendait pas et il s'est déclaré candidat fin août. C'était une surprise pour tout le monde. Souvent, il a été en soutien d'autres et là, il a décidé de mener sa campagne. Moi, je trouve que c'est une très belle. Il a mené une très belle campagne et c'est une très belle performance d'arriver premier alors que personne ne vous attendait là. Et en fait. Éric Ciotti, si on regarde, c'est finalement un parcours de cohérence idéologique. Il a toujours eu ces idées-là et c'est un parcours aussi de loyauté vis-à-vis de sa famille politique. C'est sans doute sur ces points-là qu'il a été, d'une certaine manière, plébiscité par une partie des militants puisqu'il est arrivé en tête, même si la différence est très courte avec Valérie Pécresse. Après, je ne sais pas ce que valent encore aujourd'hui les consignes de vote. Je ne sais pas à quel point elles seront respectées et à quel point le report fera que qui n'aura pas de chance? Est-ce que la dynamique va se poursuivre? Comment ils vont mobiliser les militants? Je ne sais pas. Comment voyez-vous les choses? Quelles sont les personnes, les ralliements que vous avez obtenus, Madame la sénatrice?
Alors c'est vrai que je m'inscris d'abord.
S'il vous plaît.
Je m'inscris tout à fait dans vos propos. Je crois que c'est deux principales qualités qui sont importantes pour nos adhérents. C'est la loyauté, la fidélité. C'est quand même important dans une communauté quand on ne la quitte pas, surtout quand le bateau y coule. Et bien sûr la constance, le projet, les valeurs qu'ils défendent aujourd'hui, ils les défendent depuis 40 ans. Donc c'est quand même deux indicateurs assez importants. Aujourd'hui. Les réserves de voix, eh bien, chaque candidat a appelé à soutenir Valérie Pécresse. Les adhérents sont libres de leur choix, on l'a vu, on est arrivé premier alors qu'on était le candidat avec quasiment le moins de soutien. Donc voilà, la stratégie, c'est de rester qui on est, de continuer. Et...
Alexandre Priam pour un...
Oui, et au moment justement de parler des soutiens, Alexandra Borchio-Fontin, il a eu un lapsus que je considère très drôle, écoutez.
Je veux remercier pour cela tous ceux qui m'ont apporté... leur soutien autour de ma directrice de campagne, la sénatrice Alexandra Borchio-Fontin, autour de mon porte-parole, le sénateur Stéphane Le Rudulier, avec les parlementaires qui sont ici, que je salue, Sandra Boël, Valérie Bazin-Malgras, Stéphane Ravier, Julien Ravier...
Stéphane Ravier. Alors,
moi, il restait sur la dernière rencontre.
Stéphane Ravier, élu le Rassemblement National.
Vous vouliez surfer là-dessus, vous savez bien que c'est un lapsus.
Bien sûr.
Son porte-parole, il s'appelle Stéphane Le Rudulier. À sa gauche, il y a Julien Ravier.
Je sais bien.
Voilà, sa langue a fourché, n'y voyez évidemment. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Freud, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a aucune révélation dans ce
lapsus.
C'est un peu la pression et le stress. Voilà, on arrive au bout de la campagne, je dois vous avouer qu'on tient bon, mais parfois, on a des petites faiblesses.
Comme présidente de SOS Éducation, elle a probablement tout lu Freud. Sophie Audugé, qu'est-ce que vous voulez poser comme question à Alexandra Borchio-Fontin?
Déjà, une remarque, c'est-à-dire que moi, je trouve que le Parti Républicain s'est distingué par ce que doit être en fait un grand parti. Politique. Je crois que c'est vraiment un exemple à donner. Je dirais que dans un pays démocratique, on ne peut que regretter que la gauche n'ait pas eu la même intelligence et n'ait pas construit un travail pour emmener effectivement tout un corps de la population à choisir la personne qui était la plus à même de les représenter sur un point de vue politique, des idéologies, des valeurs. Je trouve que Éric Ciotti a fait effectivement une belle campagne et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il a le mérite de donner aux Français et aux personnes qui le regardent le sentiment d'avoir une vision pour la France, de représenter une France. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et c'est vraiment ce qui manque de l'autre côté de l'échiquier politique. C'est une autre vision des valeurs. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est... je pense que c'est aussi ce que marque ce résultat. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des candidats qui disent, bah voilà, la France, moi je la vois comme ça, et ceux qui voteront pour moi choisiront ces valeurs-là.
Alexandra Borchio-Fontin, très court, parce qu'on est déjà en retard.
Une réaction, oui, sur le fond et la forme. Je pense que ce qui a marqué sa campagne aussi, c'est cette sincérité et son amour pour la France qu'il n'a cessé de répéter, et la sincérité qu'on a pu voir à travers ses interventions. Il croit dans ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, et je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin peut-être de cette renaissance française, de cet amour de la France. On a besoin de le dire, de l'entendre, et lui le défend au quotidien, et je pense que c'est ça aussi qui a séduit nos électeurs et qui demain séduira les Français.
Merci beaucoup. Vous aviez une chose.
Et le tweet d'Éric Zemmour, hein, à 4h pile. Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort. Faudra voir quelle incidence a donné à ce tweet.
Pas grand-chose.
Eh bien, écoutez, on regardera ça. Les vraies voix. Merci beaucoup, Alexandra Borchio-Fontin, sénatrice LR des Alpes-Maritimes et soutien d'Éric Ciotti. Les vraies voix, 17h58 à 18h30, notre grand débat. Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent? Vous êtes 80,6% à dire non. On se retrouve tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Ah, oh, les vraies voix. J'avais dit, c'est Messi, Neymar, Mbappé. On va faire une métaphore tennistique maintenant. C'est Federer, Nadal et Djokovic aujourd'hui. Avec Philippe Bilger, 20 grands chelems au compteur. Ça vous va? Vous êtes plutôt Federer, Nadal ou Djoko dans les trois?
Federer. Mais Djoko aujourd'hui, mais Federer comme Françoise de Goix. Quelle nostalgie.
Ah, quelle nostalgie. Président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Parole d'un Inclassable, publié à la Nouvelle Librairie, Lydia Guirousse. Alors vous êtes plutôt alors, Nadal ou Djoko?
Moi, Federer.
Bon, il y en a deux qui sont Federer.
Mais Federer est remplaçable.
Ah oui, ça je suis d'accord au niveau du style. Alors là, le revers de Federer me fait rêver.
Il est beau.
Auteur du livre Assimilation, en finir avec ce tabou français publié aux éditions de l'Observatoire. Et alors, Nadal, Djoko ou aussi Federer?
Alors moi, rien du tout. Je serais plus ravie de voir que les grands champions ont refusé d'être compétiteurs. Ah oui. Avec la Chine, hein, voilà, oui. Face justement à cet athlète. C'est bon de rappeler, qu'en France, la parole est quand même libre et ouverte, et que c'est pas le cas partout.
Et bien là, vous avez mis une très belle volée, ma chère Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation.
C'est important de le rappeler.
Je suis à votre service et je vous remercie pour votre retour, ma chère. On est vraiment dans les expressions tennistiques. À 18h30, notre grand débat. Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent? Vous êtes 80,5% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux à 18h15. Ça va être un peu spécial. On aura avec nous Pierre Licia, c'est une vraie voix, on le connaît bien, conseiller régional d'Île-de-France et soutien de Valérie Pécresse. Je vous rappelle que la finale des Républicains opposera Éric Ciotti et Valérie Pécresse. On aura les résultats samedi. En forme, les vraies voix, pour cette deuxième heure?
Toujours prêt, en forme prêt. Avec vous, Philippe.
Oh bah, mais c'est réciproque. Allez, un tour de table de l'actualité de Lydia Guirousse.
T'es partant pour un deuxième tour.
Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table.
À mon tour.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et vous voulez parler de la vidéo d'Éric Zemmour, ma chère Lydia Guirousse?
Oui, la vidéo, la fameuse vidéo qu'Éric Zemmour a postée, dans laquelle il partageait sa vision de la France, un brin nostalgique, mais on peut partager beaucoup de constats. Une vidéo qui avait fait déjà 2 millions de vues très rapidement, mais une vidéo qui se retrouve d'une certaine manière censurée par YouTube, puisque figurez-vous qu'aujourd'hui, pour pouvoir voir cette vidéo, il faut pouvoir avoir plus de 18 ans et apporter une preuve de son âge à YouTube en envoyant une pièce d'identité, c'est-à-dire un scan de votre pièce d'identité pour que YouTube vous autorise à voir cette vidéo. Je trouve ça très étrange. Est-ce que c'est une manière de censurer? Alors, ils disent qu'il y a des passages et des extraits qui sont d'une grande violence, mais il me semble que toutes les images qui sont... alors, il y a une question de droit, mais ça, c'est autre chose. Mais que toutes les images qui sont dans cette vidéo où il présente sa candidature, donc il est officiellement candidat à l'élection présidentielle, sont des images qui ont été diffusées dans d'autres médias.
Oui, à des heures de grande écoute.
Et sur cette plateforme, il y a aussi des vidéos qui sont d'une très grande violence et qui ne sont pas censurées. Alors, cette forme de censure, enfin en tout cas cette difficulté à accéder à cette vidéo, eh bien, est arrivée après un nombre très important de signalements, et on sait comment les signalements sont utilisés par les opposants sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, vous allez poster une vidéo qui ne plaît pas à certains indigénistes. Ils vont s'organiser pour signaler, et cette vidéo sera censurée. Et c'est comme ça que vous avez l'origine du monde sur Facebook qui va être censurée, mais pas d'autres...
La vidéo où Daesh brûle vif un pilote de chasse jordanien enfermé dans une cage remplie de kérosène... C'est passé, ça passe, voilà. Ça y est toujours, il n'y a pas de problème. Par contre, l'origine du monde, oulala, quelle horreur.
Et je trouve que ce genre d'initiative de la part de ces plateformes est une façon de donner du kérosène, du carburant à Éric Zemmour.
Philippe Bilger.
Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Lydia.
Bon, les grands esprits se rencontrent
non,
alors.
J'ai été très étonné quand j'ai vu cette interdiction aux mineurs. J'ai regardé, alors on peut tout justifier après quand on voit un petit peu la statue, mais c'est un scandale. Je me demande si, comme longtemps en matière judiciaire, on ne va pas créer dans tous les secteurs de la vie intellectuelle et sociale un statut spécial pour Éric Zemmour.
Alors bon, moi j'étais pas du tout au courant.
Moi je l'ai appris en préparant l'émission, grâce à Lydia Guirousse que je l'ai appris. Je la remercie d'ailleurs.
Je vous en prie, je suis là pour ça, cher Philippe.
Non mais bon, après on en revient toujours au même, c'est-à-dire que ce sont des gens qui prônent la liberté d'expression, qui prônent les principes et les valeurs de la démocratie, et ils font au quotidien tout le reste puisqu'ils empêchent de s'exprimer quelqu'un qui est un candidat, qui va donc se présenter au suffrage universel des Français, qui sont les seuls à même de juger de qui ils voudront comme président, et au même titre que n'importe quelle autre personne et n'importe quel candidat, il a le droit de s'exprimer, avec en plus des images effectivement, comme l'a rappelé Lydia, qui sont par ailleurs diffusées. Entre nous, et pour connaître quand même très bien le monde des mineurs, ça ne va faire qu'attiser l'envie des moins de 18 ans d'aller la regarder. Donc je pense que l'objectif va être exactement, ne sera pas atteint, et que c'est exactement l'inverse qui va se produire, évidemment.
Je voudrais vous poser une question à tous les trois. On commence par vous, Lydia Guirouz, comme c'est votre tour de table. La présidentielle, ça vous fait pas peur quand vous voyez que c'est tous des réseaux sociaux américains, que Twitter s'est permis de jarter comme un malpropre le président des États-Unis? Quand même, Donald Trump, 88 millions d'abonnés sur Twitter, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui, l'homme le plus puissant du monde, au moins militairement. Est-ce que ça vous fait pas peur? Parce que si maintenant une boîte américaine, YouTube, qui appartient à Google, se permet de censurer à moins de 18 ans un candidat à la présidentielle française, est-ce que cette présidentielle va être équitable?
Alors, je ne sais pas si elle sera équitable. En tout cas, il faut dénoncer, il faut condamner ces pratiques de géants du numérique. C'est scandaleux. Donald Trump, on aime ou on n'aime pas, mais même si on n'aime pas, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'a fait Twitter. C'est une forme de censure. Ils n'ont aucune légitimité démocratique contrairement à lui, et ils n'ont pas à le censurer sur les réseaux sociaux, et un réseau social en particulier qui devient une forme d'AFP finalement, que ce soit en France ou dans le monde. On s'informe grâce à ça, et aujourd'hui vous envoyez un tweet quand vous êtes un homme politique, il est parfois plus repris par les autres médias qu'un communiqué de presse.
Philippe Bilger, ça vous fait peur ?
C'est une crainte que j'aurais jugée fantasmée il y a quelque temps, mais aujourd'hui je la juge très plausible.
Mais je la juge plausible depuis que Donald Trump a été banni, sachez-le bien.
Vous avez raison.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Dugé ? Ça vous fait peur qu'une boîte américaine peut censurer qui elle veut en France ?
C'est une forme de censure. Bon, évidemment, on ne peut pas être d'accord avec la censure. Après, je pense que l'impact pour Éric Zemmour sera relativement faible, puisque de toute manière il trouvera d'autres moyens de s'exprimer. Il a quand même des médias qui justement luttent contre ça. Je veux dire, CNews s'oppose à ça, et donc ils lui donneront la parole pour compenser les risques. Donc bon.
Les vraies voix, 18h15. Dans quelques instants, on retrouve Pierre Licia, soutien de Valérie Pécresse, qui sera finaliste de la primaire à droite face à Éric Ciotti. Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France qu'on connaît bien puisqu'il fait partie des vraies voix.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirouz et Sophie Audugé. Nous avons avec nous Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France, par ailleurs Vraies Voix et soutien de Valérie Pécresse. Bonsoir Pierre Licia.
Bonsoir à tous, bonsoir les Vraies Voix.
Et on commence par écouter justement Christian Jacob qui parle du calendrier.
Notre calendrier était le bon, puisque c'est notre calendrier qui... a donné le tempo. Nous sommes devenus le sujet numéro un de préoccupation des membres du gouvernement et des membres du Rassemblement national.
Alors justement, ce calendrier, vous êtes d'accord avec Christian Jacob, il est bon, Pierre Licia, et il est bon en particulier pour Valérie Pécresse, comme vous la soutenez?
Le calendrier dont parle Christian Jacob, c'est effectivement la capacité que nos candidats et que ce congrès, cette primaire interne, a eu comme effet pour justement imposer un rythme de campagne. Et ce rythme de campagne, notamment des sujets de campagne, ils ont été effectivement imposés, et notamment au gouvernement qui a dû, à certains égards, un peu modifier, changer son fusil d'épaule sur un certain nombre de sujets. Je pense par exemple au nucléaire, où Emmanuel Macron a quand même pendant très longtemps tergiversé. Il a fallu que les différents candidats, et notamment Valérie Pécresse, prennent ce sujet-là du nucléaire à bras-le-corps, comme un sujet de souveraineté nationale, comme un sujet d'indépendance énergétique, comme un sujet de savoir-faire industriel, pour que le président de la République infléchisse un peu sa position sur ces questions-là. Donc effectivement, oui, je crois que la droite, aujourd'hui, impose un rythme, et le président de la République est bien obligé de suivre tant bien que mal.
Philippe Bilger.
Mon cher Pierre, si tu le permets, on ne va pas feindre
vous tutoyez,
la connivence médiatique absolue. Est-ce que la qualification brillante de Valérie Pécresse pour le second tour montre que les Républicains ne lui ont pas reproché d'avoir quitté le parti à un certain moment, contrairement peut-être à l'un de ses adversaires? Est-ce que... Comment tu expliques ça ?
Je pense honnêtement, j'ai envie de dire, les Républicains aujourd'hui, ils ont envie de gagner. Et la question que se sont posées les Républicains, c'est pas tant de savoir qui était resté jusqu'au bout encarté dans le parti, parce que vous pouvez ne plus être encarté dans un parti sans pour autant avoir trahi votre famille politique. Valérie Pécresse, elle a toujours été de droite assumée, elle a toujours été, elle a toujours fait partie de la même famille politique, elle n'a jamais tourné les talons, elle n'a jamais trahi, elle n'est jamais allée voir ailleurs. Et donc c'est ça aussi que les Républicains voient. Et les Républicains se posent la question, les adhérents, du moins ceux qui ont voté, se posent la question très simplement de savoir qui demain pour battre Emmanuel Macron.
Absolument.
Et ils ont placé deux personnalités qualifiées. Moi, je pense que, et c'est ce qu'on dit effectivement, notamment Philippe Juvin, comme Xavier Bertrand, comme Michel Barnier, qu'aujourd'hui, celle qui est la mieux placée pour gagner, pour l'emporter face à Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse.
Lydia Guirousse.
Oui,
effectivement. Qui ne va peut-être pas avoir l'outrecuidance de vous tutoyer.
Je pourrais, on s'est déjà croisé.
Pourquoi pas.
Allons-y alors. Donc, oui, non, mais c'est vrai que pour les militants, il y a un choix entre Éric Ciotti, j'allais dire Éric Zemmour. Vous voyez, moi aussi, je fais des lapsus. Entre Éric Ciotti, qui pourrait être l'incarnation d'une droite plus conservatrice, certains disent une droite dure, et Valérie Pécresse, qui est moins dans une ligne plus dure, mais plus chiracienne. Et en fait, c'est un choix qui va être un choix stratégique. Soit on se fait plaisir et pour certains militants vont essayer de que leurs idées soient portées par Éric Ciotti, ou alors on est plus stratège et on donne une chance à Valérie Pécresse, qui est celle qui est le mieux placée, puisque le centre sera aussi avec Valérie Pécresse et peut-être qui pourra bousculer le fameux match installé depuis le début du quinquennat, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Voilà.
Pierre Litia.
Je ne sais pas s'il est question de se faire plaisir et de voter
chez certains, militants.
Moi, croyez-moi que j'ai voté Valérie Pécresse et ça m'a fait grand plaisir de voter pour elle et ça me fera grand plaisir de voter pour elle à nouveau au deuxième tour. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a deux visions, j'allais dire, de la droite qui s'affrontent. Et ce congrès-là permettra, ce qu'on espérait depuis maintenant pas mal de temps, permettra une clarification. Où se situe aujourd'hui la droite? Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle n'est pas plus molle ou moins à droite. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle a un programme, un projet de droite assumé, puissant sur l'économique, très libéral, très décentralisateur, très débureaucratisateur et très réformiste, mais aussi un projet très fort sur le régalien. Et c'est un peu l'esprit, vous savez, moi j'ai été soutien de François Fillon, c'est un peu l'esprit aussi du projet que portait François Fillon. Quelque chose de très libéral sur l'économique, aussi sur les questions sociétales, mais quelque chose de très fort sur le régalien, sur la sécurité, sur la justice, sur la défense. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, ce que le peuple de droite, mais au-delà, le peuple de France attend.
Sophie Audugé.
Oui, alors moi j'aurais une question, puisque effectivement, j'aimerais savoir de quelle manière Valérie Pécresse va pouvoir, de manière très concrète, distinguer son action en tant que présidente potentielle de la République par rapport à Emmanuel Macron, et notamment sur la question de l'éducation nationale, qui est le sujet sur lequel je pense que je suis la plus qualifiée, où je pense que Valérie Pécresse, jusqu'à maintenant, ne va pas assez loin dans ce qu'elle proposera de remettre en question et de remettre sur pied l'éducation nationale et l'instruction nationale.
Pierre Litia.
Alors, il y a deux questions dans votre question. D'abord, je crois que Valérie Pécresse ne serait pas qualifiée au deuxième tour de ce congrès si on considérait qu'elle avait des difficultés à se distinguer par rapport à Emmanuel Macron. Pour le coup, là-dessus, elle a fait une campagne très claire. Elle est très claire d'ailleurs depuis très très longtemps sur cette question-là. Aujourd'hui, on a un président de la République qui est dans le cabotage, un coup à gauche, un coup à droite. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut, on ne sait pas trop où il va, on ne sait pas ce qu'il pense surtout. Valérie Pécresse,
oui, mais justement,
est
voilà,
elle dit ce qu'elle pense.
Bah voilà, donc.
Ce qu'elle fera. Vous parlez d'éducation.
Voilà.
Valérie Pécresse, dans cette campagne interne, dans cette primaire de la droite, c'est, me semble-t-il, la seule qui ait porté un projet aussi puissant sur l'éducation. Elle l'a appelé ça un projet de nation éducative, avec une multitude de dispositifs nouveaux, pour justement remettre sur pied l'éducation nationale, avec insister au maximum sur l'apprentissage des fondamentaux, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui pêche chez beaucoup d'élèves et dans beaucoup d'écoles, malheureusement, de collèges, mettre l'accent sur les fondamentaux, mais aussi refaire confiance aux professeurs, au corps enseignant, parce que c'est qui mieux que les professeurs et les professionnels pédagogiques pour tirer l'éducation nationale vers le haut.
Bah écoutez, donc, en tous les cas, nous, on sera à la disposition de Valérie Pécresse pour travailler avec elle sur des actions et des propositions extrêmement concrètes qui ne soient pas dans le verbiage et qui permettent de faire remonter.
Ou avec Éric Ciotti, si jamais c'est Éric Ciotti
avec tout le monde. Nous, on a envoyé une lettre à tout le monde en proposant de mettre toutes nos ressources à disposition pour faire progresser l'instruction nationale.
Nous sommes les seuls à avoir vraiment présenté ce qu'on a appelé un projet de nation éducative. C'est pas simplement une réforme de l'éducation nationale, une énième réforme de l'éducation nationale, mais un vrai projet, une vision sur 30 ans de nation éducative.
Merci beaucoup Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France et soutien de Valérie Pécresse. On suivra bien évidemment les résultats définitifs de la finale sur Sud Radio dès vendredi, mais surtout ce week-end avec Jean-Marie Bordry. Dans quelques instants, notre grand débat, Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent? Vous êtes 80,7% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour en parler.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Sophie Audugé. Le Ségur de la santé est d'actualité puisque Jean Castex et Olivier Véran sont aujourd'hui à Angoulême et que le ministre de la Santé a donné une longue interview au quotidien Sud-Ouest pour parler du Ségur. 19 milliards en tout, dont près d'1,3 pour la région Nouvelle-Aquitaine. Des chiffres abstraits pour les citoyens. Cependant, l'argent ne fait pas le bonheur, y compris à l'hôpital, puisque nombre d'autres problèmes sont connus, comme les sous-effectifs causés par le numerus clausus ou des départs de soignants, sous-effectifs ayant pour conséquence des fermetures de lits, s'ajoutant aux fermetures de lits budgétaires ou encore les conditions de travail des personnels. D'où notre grand débat. Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent? Et vous êtes 80,9% à dire non avec nous. Michel Cerruti du comité soutien hôpital urgence Marmande. Bonsoir Michel Cerruti.
Bonsoir.
Alors, il y a une phrase qui m'a marqué dans l'interview du ministre de la Santé dans Sud-Ouest. Je la cite. La semaine dernière a été inauguré un très beau paquebot. C'est l'hôpital des enfants de Bordeaux. Mais on n'a pas l'équipage pour le faire fonctionner. Ça rappelle un peu l'URSS avec ses grands magasins au rayon vide, non ?
Ça rappelle surtout une réalité qui est celle de tous les hôpitaux actuellement, et notamment celui de Marmande.
Mais quand même, ça pose question. On a un super hôpital, mais il n'y a pas le personnel pour le faire marcher. On se pose des questions, non, sur l'argent public.
C'est une vraie question, puisque chez nous, à Marmande, il est annoncé depuis longtemps, d'ailleurs, l'agrandissement des travaux des urgences, puisqu'il y avait 10 000 passages aux urgences annuels. Maintenant, on est à 25 000. Effectivement, on était un peu à l'étroit. Mais la question qui est posée, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a 11 postes de médecins urgentistes qui sont vacants depuis le mois de mai. Et donc, on est obligé de mobiliser en permanence 2 médecins urgentistes intérimaires pour faire face. Donc, vous pouvez agrandir les locaux. Si on ne prend pas des dispositions pour mettre en place de la ressource humaine, on va dire, on pourra toujours inaugurer des bâtiments.
Philippe Bilger.
Michel Cerruti, pardon. Je voulais dire qu'il y a un constat général et, au fond, une récrimination collective sur le fait que, depuis le début de l'épidémie, rigoureusement rien de structurel, de positif, n'a été fait pour le monde hospitalier, comme si on n'avait tiré aucune leçon. J'ajoute que le président de la République, à plusieurs reprises, a félicité le personnel hospitalier, mais en réalité, il le félicitait parce que ce personnel travaillait dans des conditions épouvantables et qu'il a tenu. Alors, pour répondre à la question de Sud Radio, et j'en ai terminé, le hasard a fait que j'ai assez fréquenté les hôpitaux ces derniers temps, et évidemment, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, j'ai pu parler avec beaucoup de personnes et vraiment il y a une attente de la considération, de l'écoute. À tort ou à raison, ils perçoivent certaines attitudes du pouvoir pour du mépris et je crois qu'il, pardon pour cette banalité, comme pour d'autres institutions françaises, je pense à la justice notamment, il faut à la fois de l'argent mais surtout de la considération et du respect. On ne traite pas les gens comme on l'a fait.
Michel Cerruti.
Oh ben je peux pas, j'ai rien à ajouter à ce que vous dites. Effectivement, pendant la crise sanitaire, en ce moment encore, la santé repose sur les petites mains de l'hôpital et du système de soins pour l'essentiel. Et donc, ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas considérés à la hauteur de ce qu'il est souhaitable dans un grand pays moderne. Je rappelle quand même qu'ils réclamaient 400 euros par mois, on leur a donné 183. C'est une chose. Ce qui pèse beaucoup sur le personnel, que ce soit des urgences ou l'ensemble des hôpitaux, c'est les conditions de travail. C'est les conditions difficiles de travail et la tension et la pression qui est organisée depuis longtemps et sans perspective. Parce que quand il y a des gens, beaucoup de gens qui démissionnent de ce fait de l'hôpital, et donc l'hôpital est en danger. Je crois que ce qu'attendent aussi les gens du monde de l'hôpital, des services publics hospitaliers, c'est qu'on leur offre une perspective de développement durable en refondant l'hôpital avec des moyens. Quand on dit l'argent, oui, mais pourquoi faire ? Et donc, on n'écoute pas suffisamment, le pouvoir n'écoute pas suffisamment. J'écoutais ce matin, il y avait à l'Assemblée nationale un débat, il y a le groupe GDR qui proposait des mesures immédiates pour améliorer le sort des patients, le sort des professionnels de santé, le sort des hôpitaux, le sort des systèmes de soins, le sort des généralistes, mais aucune proposition n'a été retenue par le gouvernement. C'est-à-dire que tout redescend de manière verticale toujours et on n'écoute pas le monde du travail.
Lydia Guirous.
Oui, je sais
bien
pas
dans le micro.
Oui, alors moi c'est vrai que on reproche qu'il y ait des fermetures de lits, mais comment ouvrir des lits s'il n'y a pas le personnel? Et derrière ça, vraiment le problème du recrutement de personnel. Et il y a énormément d'hôpitaux qui vous diront qu'ils ont des postes à pourvoir, mais qu'ils n'arrivent pas, même s'ils font un effort financier ou parfois facilitent l'accès à certains logements. Ils n'arrivent pas à recruter des infirmières, des aides-soignantes, et ils n'arrivent plus à les attirer. Certaines, après la crise de la Covid, ont décidé de changer et d'autres trouvent qu'ils ne sont pas assez payés dans les hôpitaux publics. Et en plus de cela, il y a effectivement aussi une montée de la violence de la part des patients qui rend le métier beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'il faut saluer le travail du personnel soignant. Et moi, je me demande si à terme, comme ça avait été le cas pour les médecins, vous savez, à la campagne, il y avait un manque de médecins à la campagne et certaines agences se sont spécialisées dans le recrutement de médecins étrangers
roumains notamment
puisqu'en plus
les premières années de médecine sont en français en Roumanie,
exactement, et qui faisaient venir dans les villages et qui aidaient à l'installation. Est-ce qu'on ne va pas vers ce type de phénomène également au sein de l'hôpital public, même si je sais qu'il y a déjà une présence importante de médecins étrangers, notamment à Paris, on peut l'observer dans les urgences.
Michel Cerruti.
Oui, on peut le regarder sous deux angles, la coopération internationale, sauf que à l'heure actuelle, c'est la pénurie. Et donc, on gère la pénurie et on étouffe les pays alentours pour notre système de soins. Ça, c'est un problème. Commençons déjà par voir, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine. Le Marmandais, c'est un désert médical. Un désert médical, c'est quand vous avez en dessous de 250 médecins généralistes et spécialistes pour 100 000 habitants. Quand vous êtes en dessous de cette norme, vous êtes un désert médical. Et en Marmandais, nous sommes à 90. Donc ça, c'est un désert médical.
Ah, je connais bien.
Et dans la même région, nous avons à Arcachon un secteur qui est surdoté. Bon. Surdoté en médecins. Donc, déjà, organisons une coopération solidaire sur les territoires. Ça pourrait s'imaginer en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle pour l'égalité d'accès aux soins en période de pénurie. Ensuite, il y a des propositions comme le conventionnement sélectif, c'est-à-dire exceptionnellement, toujours, parce que je sais bien qu'il y a la liberté d'installation, mais tout le monde a envie de vivre correctement avec un bon travail, un bon salaire, avec un logement et élever les enfants. Tout le monde a envie de ça. Mais nous sommes dans un contexte qui a été créé par les gouvernements précédents, de droite et de gauche, où ils ont déshabillé l'hôpital. Et aujourd'hui, on doit faire face, et nous sommes mobilisés sur le Marmandais pour ça, de manière à trouver des solutions les moins pires, en définitive. Alors, je parlais de conventionnement sélectif, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est, mais c'est quand même d'orienter les jeunes médecins pendant 3 ou 4 ans sur les territoires qui sont sous-dotés. Peut-être il faut mettre en place, bien sûr, des dispositifs
fiscaux.
Oui.
Des dispositifs fiscaux, etc., pour inciter.
Oui, des dispositifs fiscaux, ou alors de proposer
aux étudiants un contrat d'engagement public avec 1200 euros par mois, la formation, parce que beaucoup de familles populaires ne peuvent pas envoyer leurs enfants, il faut quand même assurer l'intendance pour alors que beaucoup souhaitent faire des études de médecine, et ensuite avec un engagement de revenir sur un territoire pendant 3, 4 ou 5 ans. On peut aussi mettre en place des centres de santé. Il en a été mis un à Tonnens, mis en place un centre de santé, c'est-à-dire qu'il salarie les médecins avec une association. Les médecins ne s'occupent que d'accueillir les patients. Toute la dimension administrative est assurée par un collectif. Ils n'ont que ça à s'occuper. Il y a 40% de la population à 50 km alentour viennent à Tonnens maintenant. On a recruté des jeunes médecins de Bordeaux à 100 km.
Oui.
Donc, voilà, par exemple, il y a des dispositions, et ça s'est mis en place en 6-7 mois. Il y a des mesures possibles, concrètes, à mettre en place.
Sophie Audugé.
Voilà.
Oui, je trouve que c'est très porteur d'espoir ce que vous venez de nous expliquer. Hein. C'est effectivement, des fois, on a un peu l'impression que l'institution rend impossible tout bon sens et toute organisation plus efficace pour avoir une santé de proximité de qualité. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu le parallèle avec ce qu'on vit et ce qu'on constate dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on a sur le terrain des médecins, des infirmiers qui sont là par conviction et donc qui sont là pour le soin, hein, qui ont une vraie vocation, et heureusement que ces gens-là sont là, parce qu'effectivement en tous les cas dans l'hôpital public, on a quand même laissé partir notamment les traitements qui sont faits par des cliniques privées, et donc ces traitements-là sont effectivement ceux qui rapportent le plus d'argent, pour ne se concentrer que sur les soins qui en rapportent le moins, et du coup créer une forme de concurrence entre le privé et le public, une concurrence qui n'est pas que sur la question financière, mais qui est également sur l'hyper-administration et le temps perdu à faire de l'administratif pour des gens qui pourraient être beaucoup plus efficaces en étant sur le terrain. Et tout ça, ça contribue à abîmer l'image de l'hôpital public, ça démotive les professionnels de l'hôpital public. Et puis, il y a également des gestions de crise, comme on l'a vu avec le Covid, qui ont été catastrophiques, qui ont même fait au sein même de l'hôpital public des querelles entre eux, les infirmiers et les infirmières qui se vaccinaient et donc qui allaient continuer à travailler et qui ne pourraient pas compter leurs heures parce qu'évidemment fallait bien qu'elles assument le travail et qu'elles s'occupent des patients, face à d'autres qui ne se vaccinent pas et qui donc on interdit de faire leur métier. Et ça, c'est quand même assez incroyable qu'on ait si mal géré cette crise-là. On aurait posé la question, ou on aurait donné en tous les cas la possibilité au personnel de se vacciner dans les tout premiers et qu'ils soient considérés comme des personnes à vacciner en priorité parce que c'était les personnes les plus importantes de la nation face à cette pandémie à ce moment-là. J'aimais l'hypothèse qu'on aurait eu une part très importante du personnel qui aurait été valorisé et considéré, enfin je veux dire d'ailleurs à la juste mesure, de leur contribution à ce moment-là pour le collectif. Et je pense que tout ça a beaucoup abîmé l'hôpital. Alors en dehors de tout ça, il y a toutes les politiques, les mauvaises politiques qui ont été menées, et je prendrai notamment la formation des médecins qui est juste...
Le numerus clausus, une catastrophe.
Oui, puis Michel, la formation,
j'ai l'impression qu'il va intervenir.
Michel Cerruti.
Oui, vous avez dit pas mal de choses. Ça revient à la question précédente, une des questions précédentes, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas suffisamment ceux qui ont eu la capacité de tenir le système de santé pendant la première crise.
Absolument.
Au début, tout le monde, personne ne savait où on allait avec le virus.
Absolument.
Donc c'est le système de soins ce sont les petites mains qui ont trouvé de briques et de brocs des solutions.
Absolument.
Pour faire face. Et donc, si on écoutait, y compris pour construire ce système de soins, si on écoutait davantage les gens qui sont auteurs et acteurs et interprètes du système de soins, comme l'ensemble des services publics, ça fonctionnerait beaucoup mieux.
Bien sûr.
C'est ce qui, qui est douloureux pour à la fois les patients et pour le personnel qui se sentent justement dévalorisés, ils sentent aussi leurs paroles dévalorisées, et donc ça pèse, c'est pas étonnant qu'il y ait des burn-out, y compris pour gérer cette question de la vaccination, y compris en interne,
Il faut leur faire confiance pour s'organiser. Voilà, je le pense. Le numerus clausus, ça fait 40 ans que moi je fais partie de ceux qui se battent pour le supprimer.
Ah ben, ça a été une catastrophe, mais le jour où on le supprime, il faut 10 ans pour former un médecin.
Voilà, il faut 10 ans pour former un médecin. Encore qu'en région Aquitaine, ça n'a pas, Nouvelle-Aquitaine, rien n'a bougé. Il faudrait tous les ans 12 000 étudiants. C'est ça une perspective, 12 000 étudiants par an. Pour les médecins, il faut 100 000 infirmières, 100 000 aides-soignantes en formation. C'est ça une perspective, c'est-à-dire tracer une perspective à long terme et en même temps prendre des initiatives concrètes pour améliorer, comme je l'ai évoqué sur certains aspects qu'on a réussi à mettre en place localement, il faut aller plus loin. Je parle aussi du glissement de compétences des infirmières pour leur permettre d'effectuer quelques gestes médicaux qui soulagent les médecins, de manière à ce que le médecin, que ce soit l'urgentiste ou que ce soit le médecin généraliste, se consacre exclusivement dans cette période exceptionnelle de pénurie à l'activité médicale, y compris des assistants médicaux. Par exemple, il y avait un débat ce matin à l'Assemblée nationale, les assistants médicaux censés libérer tous les professionnels ou les médecins, censés réduire toute l'activité administrative et autres auxquelles sont confrontés souvent les médecins, y compris à l'hôpital, pour chercher un hôpital, pour chercher un transport, pour chercher ceci ou cela. Donc ça n'a pas été entendu suffisamment pour les orienter vers des déserts médicaux comme le nôtre. Ensuite,
Merci Michel Cerruti du comité soutien hôpital urgence Marmande. Verdict sur Twitter, Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent? Eh bien vous êtes 80,2% à dire non. Tout de suite on va prendre la direction de Bayonne avec Alexandre Priam. Oui, on va parler de rugby féminin, mais on aimerait bien en parler autrement. Restez bien avec nous, les vraies voix sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous, Sophie Audugé. Avec vous, mon cher Alexandre Priam, on prend la direction du Pays Basque.
Tout à fait, on prend la direction de Bayonne, sur la côte basque, parler rugby féminin exactement. On est avec Emma. Bonjour Emma Le Chardois.
Bonjour.
Demi-mêlée de l'AS Bayonne. L'AS Bayonne, c'est tout simplement le club qui était demi-finaliste de la première division française, hein, bien évidemment, de l'élite 1 il y a encore 3 ans. C'est aujourd'hui une section féminine qui n'existe plus dans ce club de Bayonne. Pourquoi? On va l'expliquer sur Sud Radio rapidement. Tout a commencé, on pourrait dire, il y a déjà plusieurs mois, hein, Emma, mais cet été, il y a eu l'exil de plusieurs joueuses majeures qui a donné un petit peu la puce à l'oreille sur les difficultés de l'AS Bayonne et de cette section féminine.
Oui, en effet, on a eu plusieurs départs cet été, notamment Pauline Bourdon, Lou Baguette au Stade Toulousain, Carla Arbès au Stade Bordelais, on a Maïka Brust qui est partie à Eibar, et également Lauriane Nizar qui a arrêté le rugby.
Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il n'y a pas de budget suffisant alloué à cette section féminine. C'est pour ça que c'est révoltant et c'est pour ça que c'est important d'en parler sur Sud Radio, la radio du rugby. Parce que cette section féminine de l'AS Bayonne, donc une des meilleures de France sur le papier, ne dispose d'un budget qui n'est absolument pas suffisant. Vous l'avez constaté en début de saison, Emma, des résultats forcément décevants, puisque pas de structure, pas de recrutement. Quelle était la situation concrètement sur place pour vous?
Eh bien, c'était compliqué parce que il y a pas eu forcément beaucoup de recrutement qui a été fait. Les résultats, 3 défaites. Donc, ouais, c'était assez compliqué en début de saison là.
Et à ce moment-là, vous refusez de jouer donc contre le Stade Toulousain en Coupe de France pour adresser un message d'alerte à ce conseil d'administration de l'AS Bayonne qui décide à l'unanimité, 18 voix pour, une abstention, de déclarer forfait pour le reste de la saison d'élite 1 féminine, de balayer d'un revers de la main toute la section féminine de l'AS Bayonne. Une décision qui est prise comme ça de façon extrêmement brutale. Ça doit être très dur pour vous, Emma, vous en plus formée dans ce club.
Oui, c'est ça. On a fait une lettre pour refuser de jouer contre le Stade Toulousain, pour essayer d'avoir une réaction des dirigeants. Et pour le coup, on a eu une réaction qui a été assez inattendue pour nous, parce que on voulait juste qu'ils se rendent compte qu'on n'y arrivait pas, quoi. Et Et ils ont pris la décision d'arrêter les litunes, alors que c'est pas du tout ce qu'on voulait, quoi.
Est-ce que cette décision aurait été prise si vous aviez été une section masculine, Emma ?
Moi, je pense pas. Je pense pas.
Aujourd'hui, en 2021, le rugby français, à son plus haut niveau, en est encore là, Philippe. Je sais pas si on se rend bien compte.
Je trouve ça complètement fou qu'on retire le budget à un club féminin, en plus du plus haut niveau. Je trouve ça complètement fou.
Mais je trouve ça scandaleux.
Vous qui êtes une femme, Sophie Audugé, ça vous êtes choquée ?
Mais je comprends pas en fait ce qui se passe parce que
le club ne veut pas mettre l'argent qu'il faut aux femmes.
Non mais enfin c'est quand même très étrange parce que je pensais au contraire que depuis quelques années le rugby féminin commençait à être même plus médiatisé, donc du coup on pouvait espérer que les joueuses soient plus connues, que les budgets soient plus élevés, qu'il y ait des jeunes qui s'inscrivent massivement dans ces régions qui sont quand même des régions culturellement du rugby, hein. Donc c'est quand même assez incroyable. Il est composé de qui ce conseil d'administration qui a décidé de rafler le budget ?
D'un certain nombre de personnes, comme dirait Fernand Reynaud. Mais
quel type de personne ?
Bien sûr, Emma. Emma, imaginons que l'affection ait continué à perdre. Ça n'aurait pas été dramatique. Vous aviez encore de l'espoir pour peut-être gagner un ou deux matchs, ou d'autres encore. Votre équipe n'était pas à ce point faible.
Non, justement, nous les filles, depuis le début, on fait, même si on perd les matchs, on est soudés entre nous. On a fait quand même un assez bon match contre Lyon, où on a failli gagner à la maison. Après, à Blagnac et à Montpellier, c'est compliqué, parce que c'est des équipes qui sont vraiment armées. Mais franchement, nous les filles, on allait tout donner pour se maintenir. On avait ciblé les matchs qu'il fallait gagner, donc on est très déçus, très énervés que les dirigeants aient pris cette décision.
Et ce qui est en plus magnifique, et dans le sens très négatif du terme, parce que là j'utilise un mot qui pourrait poser question, mais vraiment magnifique d'horreur, c'est que la Fédération Française de Rugby a constaté ce forfait général. Il a été obligé tout simplement, comme l'exige ces règlements, de confirmer cette décision. La Fédération Française de Rugby, qui est composée notamment, on le rappelle, en son sein président Bernard Laporte, qui est le vice-président de la Fédération Internationale, et de Serge Simon, qui est le président de la partie féminine à la Fédération Internationale. Ces deux personnes-là qui sont décisionnaires n'ont pas pu prendre de décision, justement, et ça montre bien la bêtise totale de cette fédération auprès du rugby féminin, qui n'a absolument plus rien faire. Je n'arrive pas à le comprendre. Non.
C'est scandaleux.
Concrètement, qu'est-ce qui se passe là maintenant du coup ?
Il n'y a plus d'équipe.
Là, c'est terminé.
Et qu'est-ce qu'elles vont faire ces joueuses alors ?
Elles vont aller dans d'autres
clubs, c'est ça ?
On peut le
si elles veulent jouer au niveau, elles doivent partir.
Si elles veulent jouer au niveau, elles doivent partir.
Et la ville de Bayonne n'a pas réagi non plus pour défendre son équipe.
On aurait pu l'imaginer.
Oui, parce que la ville de Bayonne pourrait considérer que c'est aussi de son rôle de rappeler un peu à l'ordre le conseil d'administration et de dire que ça serait bien quand même que une ville comme Bayonne en rugby.
C'est manifestement
courage à Emma et à toute cette équipe de joueuses professionnelles.
Tout notre soutien aux joueuses. Appelons-en aux députés, aux maires sur place.
Des Pyrénées-Atlantiques, notre soutien donc aux joueuses de l'AS Bayonne. Dans quelques instants, nos deux vraies voix du soir. On va parler de la finale Ciotti-Pécresse chez les Républicains. On aura Frédéric de Blagnac et Julien de l'Essonne.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Parole d'un Inclassable, publié à la Nouvelle Librairie, est resté avec nous. Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, est restée avec nous. Et nos deux vraies voix du soir, vraiment aux deux bouts de la France, bonsoir Julien de l'Essonne.
Bonsoir.
Et là, cap au sud, plein sud, bonsoir Frédéric de Blagnac.
Oui, bonsoir à tous.
Alors, on va parler évidemment des résultats. C'est tombé en milieu d'après-midi. Ce sera une finale Ciotti-Pécresse. Je rappelle les scores. Éric Ciotti est arrivé en tête avec 25,59% des voix. Valérie Pécresse, juste derrière, 25. Juste derrière, Michel Barnier, 23,93%. Suivi de très près par Xavier Bertrand à 22,26. Et très très loin derrière, Philippe Juvin avec 3,13%. Est-ce que vous êtes surpris, Julien, par cette finale ?
Moi, plutôt oui, puisque je pense que là, on est en période de crise, on a besoin d'un chef de guerre qui connaît le combat, et le seul qui avait la tête pour le faire, c'était Philippe Juvin, qui est quand même directeur d'un hôpital, même si c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur spécialement, mais au moins, il sait de quoi il parle, il connaît, il a déjà mis une blouse, il a déjà mis des gants, Pécresse et...
Ciotti.
Et l'autre, Ciotti, ils vont juste être des autoritaristes, ils vont continuer la même politique complètement désastreuse médicale qu'on a vécue avec Emmanuel Macron, qui consiste à taper sur les soignants. On a vu que avant que la dose soit obligatoire pour les soignants, il y avait à peu près 30% seulement des soignants qui s'étaient fait volontairement vacciner. C'est-à-dire que 70% des soignants étaient contre et se sont fait vacciner contre leur gré. Je pense que c'est pas une bonne politique d'imposer ça à des gens qui en soi n'avaient pas de risque majeur d'être malades, puisque ça globalement des jeunes, des personnes en bonne santé. La deuxième chose, c'est que sur les deux qui restent, malheureusement, moi je vais être très à l'écoute de ceux qui seront vraiment à l'écoute des propositions citoyennes, puisque je pense que malheureusement, vous disiez tout à l'heure dans le documentaire juste précédent, qu'il y avait un manque malheureusement de médecins et qu'il y avait un problème
dans
de
numérosus. Oui.
Ouais, dans le débat précédent. Il y a un problème de numérosus clausus. Il y a des solutions très simples pour améliorer ça et booster tout, revaloriser le travail des infirmières, des soignants, etc., c'est de proposer à une infirmière qui a 10 ans de carrière et un certain parcours, qui remplit certaines cases dans son parcours, de devenir médecin de campagne si, dans la région où elle est, il y a un manque de médecins. Je ne sais pas si vous voyez le truc.
Oui,
on voit. Voilà, ça va permettre de redynamiser des infirmières qui sont en fin de carrière, qui sont fatiguées, qui ont mal au dos, qui ont les genoux cagneux, mais qui sont obligées de continuer à travailler parce que malheureusement, elles ne peuvent pas faire autrement parce qu'elles sont arrivées à ce qu'on appelle le plafond de verre du médical. C'est-à-dire que quand on est infirmière, au mieux, on arrive à être IBOD, c'est-à-dire infirmière de bloc, ou anesthésiste.
Mais
malheureusement, après, ça stagne.
Oui, Julien, là, on a parlé surtout du point de vue médical. On a compris que vous auriez préféré Philippe Juvin. Frédéric de Blagnac, vous êtes surpris par cette finale ?
Non, je ne suis pas surpris. Alors, là, je voudrais féliciter quand même les 5 participants parce qu'ils nous ont offert des débats de qualité. Je pense que les gens ont besoin aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a notamment 2 valeurs importantes de fidélité et de droiture. Et je pense qu'Éric Ciotti a démontré lors de ces débats, d'une part sa fidélité à sa famille qu'il n'a jamais quittée, qu'il a toujours soutenue, même dans les pires moments, et c'est là où on reconnaît ses vrais amis, et notamment sa droiture, je dirais, en termes de ligne de conduite, d'avoir quelqu'un, un chef de capitaine, un chef d'État, un capitaine de vaisseau qui a une ligne de conduite claire, expliquée, et qu'il tient précédemment. Donc non, je ne suis pas surpris en la matière, et je pense que même ça risque de bouleverser un peu l'échiquier et même les sondages précédemment donnés, et que certaines personnes qui avaient besoin peut-être de se reconnaître dans quelque chose d'un peu plus fort, je dirais, en termes de caractère, et d'avoir une procédure régalienne un peu plus prononcée, vont se reconnaître dans Éric Ciotti au second tour et peut-être après au niveau des présidentielles, et peut-être ne pas tomber dans le mirage peut-être d'autres candidats de typologie Zemmour ou autre.
Philippe Bilger.
D'abord, pour répondre très aimablement à Julien, moi j'apprécie beaucoup Philippe Juvin, qui de surcroît est un ami. Il a indiqué d'emblée qu'il faisait plutôt une candidature de témoignage, et il a fait pourtant une campagne remarquable avec 3%, mais parce que jamais les gens n'ont perçu qu'il était délibérément sur la ligne présidentielle. Il l'a voulu comme tel. Ensuite, comme l'a très bien dit Philippe David, choisir un président, ça n'est pas uniquement savoir ce qu'il va faire sur le plan sanitaire. Pour répondre à notre deuxième
Frédéric,
qui a, je le rejoins, et en ce qui me concerne, j'ai trouvé que la campagne d'Éric Ciotti était remarquable, très claire, très cohérente, très fidèle à ce qu'il a toujours pensé. Ce qui, moi, pour ne rien vous cacher, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel sera le 4 décembre le mieux placé peut-être pour l'emporter. Est-ce qu'Éric Ciotti parviendra à retrouver les voix qui, pour l'instant, se trouvent chez Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ou est-ce qu'on se dira au contraire, on a déjà Zemmour, on a déjà Marine Le Pen, c'est pas la peine de rajouter des voix à Éric Ciotti? C'est une question que je me pose, et est-ce que Valérie Pécresse ne serait pas, tout compte fait, la plus apte à battre Emmanuel Macron si elle était au second tour?
Sophie Audugé.
Oui, pareil, je dirais que par rapport à ce que disait Julien au départ, je pense qu'effectivement, Philippe Juvin a fait une très très belle campagne. Ça a eu le mérite, effectivement, de parler des problématiques de l'hôpital. Ça,
qui sont de grandes problématiques.
Ouais. Oui, absolument. Et je pense que ça a donné, justement, aux enjeux et aux vraies questions de la politique sanitaire en France, une audience qu'elle n'aurait jamais eue s'il n'y avait pas eu ce débat. Donc, de ce point de vue-là, ça a été très très utile. Que si jamais c'est un de ces candidats qui devient président, on peut espérer qu'il puisse peut-être briguer le poste de ministre de la Santé.
Ah,
et à ce titre-là, je pense que Julien sera tout à fait ravi de retrouver...
Pour une fois, on aura un ministre compétent.
Oui, qui saura de quoi il parle. Voilà. Et après, effectivement, comme on a été plusieurs, je crois, à le signaler, c'est qu'effectivement, on a eu un beau débat. Ça a replacé un grand parti politique français, qui est une droite qui fait partie, en fait, du paysage et de l'échiquier politique, en montrant qu'on avait des têtes dans ce pouvoir-là qui étaient capables de s'exprimer, d'exprimer des valeurs, de faire effectivement ressortir plusieurs candidats. C'est bien qu'on ait une parité. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait Valérie Pécresse en face d'Éric Ciotti. Et puis maintenant, on verra ce qu'on vont choisir les militants. Voilà, lequel des deux va être...
Les vraies voix, 19h13 avec Sophie Audugé et Philippe Bilger qui sont restés avec Frédéric et Julien. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de cette primaire. Je dis le mot primaire à droite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Sophie Audugé, nos deux vraies voix du jour, Julien et Frédéric. Julien de l'Essonne, Frédéric de Blagnac. Frédéric, ce second tour entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti, est-ce que, allez, je vais être un peu provoque, c'est pas un deuxième tour entre le centre-droit Macron compatible et la droite Zemmour compatible, ou au moins non Macron compatible?
Alors, je dirais que c'est plus un second tour où on va avoir, effectivement, si on parle d'Éric Ciotti, quelqu'un qui est vraiment très attaché à sa famille des Républicains et qui a prouvé sa fidélité et sa droiture. Est-ce que l'on peut qualifier aujourd'hui de candidat zémourien ou autre alors,
ah non, j'ai pas dit zémourien. Voilà. J'ai dit, il a dit que lui, entre Zemmour et Macron, compatible. Il votait Zemmour. J'ai dit plus oui. Zemmour compatible ou en aucun cas Macron alors, compatible. Voilà.
Là, une chose est claire, c'est qu'il n'est pas Macron compatible. Ce que l'on peut éventuellement reprocher à Valérie Pécresse, c'est son ambiguïté, suite à un moment donné, de quitter les LR parce qu'il y avait Laurent Wauquiez, parce qu'on ne savait pas trop à un moment donné si on voulait se rapprocher de la mouvance gouvernementale. Au moins, avec Éric Ciotti, c'est un candidat qui a toujours donné sa ligne de conduite claire, qui n'a pas bougé d'un iota, qui a fait des débats extrêmement pertinents, qui étaient très très clairs et clairvoyants, et qui donnent... On a besoin de transparence. Alors effectivement, on a aussi besoin de candidats qui puissent approcher des thèmes qui parfois peuvent choquer, comme les flux migratoires, comme l'insécurité, etc. Il y a bien évidemment la santé, il y a bien d'autres thèmes, mais je pense que ces candidats vont bien évidemment pouvoir apporter des propositions sur l'ensemble des sujets. Après, Valérie Pécresse peut jouir éventuellement, je dirais, d'un petit iota supplémentaire, c'est une femme, et c'est vrai que dans l'esprit des gens, depuis longtemps, on espère avoir une femme présidente, mais ceci dit, on a quand même eu des scénarios précédemment où on a eu Ségolène Royal ou Marine Le Pen qui étaient des femmes et qui n'ont pas non plus réussi, ne serait-ce que parce qu'elles étaient des femmes, à accéder à la présidence. Donc attention, nos miroirs des alouettes. Je pense qu'au niveau des Républicains, ce qui se passe également, c'est qu'on reproche, et on a reproché également à Bertrand et à Valérie Pécresse, la façon de partir, de revenir, alors que là, on a un candidat avec Éric Ciotti qui est toujours resté, même dans
fidèle
les pires moments,
à son parti fidèle, politique.
Fidèle à son parti et fidèle également à une grande partie, je dirais, des Républicains qui sont très fidèles à Nicolas Sarkozy, qui reconnaissent en lui, effectivement, la mouvance Sarkozy.
On va donner la parole à Julien de l'Essonne. Vous êtes d'accord avec cette question? C'est finalement le centre-droit contre la droite et le Macron compatible avec le strictement non-Macron, voire même avec le Zemmour compatible?
Complètement. Je pense que là, ils ont fait un choix stratégique de manière à contenter à la fois les déçus de Macron et essayer aussi de rattraper une part de l'électorat qui va voter pro-Macron. Je pense que c'est ça qui va un peu qui va se goupiller au tour final. C'est vraiment essayer de récupérer, afficher le plus large possible à gauche et le plus large possible à droite.
D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, les vraies voix, Philippe Bilger?
Il y a quelque chose. On a beaucoup fait le reproche à Valérie Pécresse d'être quasiment proche d'Emmanuel Macron et, au fond, d'être capable de répondre à sa séduction pour un poste. elle a répliqué, me semble-t-il, de manière très claire là-dessus. Et j'ajoute que c'est une méthode un peu discutable de la Macronie, parce qu'ils ont voulu faire la même chose avec David Lisnard, qui, au début, sans qu'on connaisse véritablement ce que serait la politique de Macron, n'avait pas de raison de le rejeter par principe. Et il rappelle, et pour Valérie Pécresse de la même manière, la Macronie cherche à couler les gens qui, à une certaine époque, attendaient de voir et qui ensuite sont devenus des opposants. Je pense que Valérie Pécresse a répondu très clairement lors des débats à ce reproche qui pouvait lui être fait.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Audugé ?
Écoutez, alors, c'est vrai que Philippe a une expertise que je n'ai pas du tout sur ce sujet-là.
Ah, mais une expertise surtout. Hein.
Oui, mais
une expertise très partiale.
oui, mais justement, c'est peut-être la meilleure dans le sujet. Je pense que c'est justement très, très bien d'avoir cette perspective un peu partiale. Mais en tous les cas, moi, je pense, en étant peut-être plus extérieure à la chose, que Valérie Pécresse gagnerait à marquer ses différences. C'est ce que je disais tout à l'heure et ce que je demandais justement à son conseiller. Moi, je me souviens, alors, c'est vrai qu'il avait été peu regardé, hein, le débat entre Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, il y a quelques mois, où effectivement il y avait une connivence entre les deux dans le débat, dans les questions posées, etc. Alors la chance pour Valérie Pécresse, c'est qu'il a été peu vu, mais il n'empêche qu'il a eu lieu, et c'est vrai que je pense que si elle veut se départager et peut-être gagner, elle devrait quand même être peut-être plus claire sur ses différences et sur le fait qu'elle est moins Macron-compatible que ce qu'on pourrait le
croire. Que ce qu'on pourrait dire. Merci beaucoup Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation.
Merci
Philippe Bilger, président. Ça fait du bien de vous appeler président
toujours.
De l'Institut de la Parole, auteur de livres Paroles d'un inclassable. Merci à Frédéric de Blagnac et à Julien de l'Essonne. Dans quelques instants, vous allez retrouver Alexandre Priam, mais tout de suite, conseil de famille, Philippe Rossi, Stéphane Moller.